Voilà, j'aimerais qu'on puisse voir ce matin un homme de tous les paradoxes. Un homme qui avait un manque de, comment dirais-je, de sagesse, du discernement. Un homme qui aujourd'hui était bien et le lendemain il était moins bien. Et dans la Bible, il y a bien un homme qui nous pousse à la réflexion dans l'histoire de sa vie, qui est paradoxal, c'est notre ami. Interrogation orale. Vous allez tous vous prendre un zéro, hein, pointé. Vous ne voyez pas de qui je veux parler ? Non, pas Paul. Hein ? Je vous aide. Job ? Non, pas Job. Bon, vous avez tous les mieux passés. Lot ? Vous voyez ? Voilà. Lot. La Bible nous parle de lui comme étant un homme juste, intègre, ne supportant pas l'immoralité. Son âme intègre était torturée à longueur de journée, ça c'est la version parole vivante, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 8. Mais est-ce que vous connaissez le syndrome de Dieu quand ça m'arrange ? Vous connaissez ce syndrome, quand Dieu ça m'arrange ? Non ? Et on peut rencontrer dans les rues de Martigues et d'ailleurs des gens qui vous diront qu'ils croient en Dieu, des gens qui ont une réelle moralité, des gens qui ont une certaine culture biblique, une connaissance biblique, voire même des gens qui ont fait l'expérience de Dieu dans leur vie, mais qui au fond d'eux-mêmes veulent faire comme ils désirent. Sans demander le conseil à Dieu. Proverbe 18, verset 1, il est écrit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Dans Genèse 13, verset 7, il est écrit « Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. » Il y a une tension. Lot étant sous la grâce, ou plutôt au bénéfice de la grâce qu'Abraham avait reçue, Abraham étant un oncle, parce que Abraham était l'oncle de Lot, lorsque Lot a perdu son papa, Abraham a eu à cœur vraiment de prendre sous son aile, sous sa responsabilité, son petit-neveu Lot. Et comme Abraham était l'homme qui marchait selon les voies de Dieu, eh bien, quand un homme obéit à la voie de Dieu, tous ceux qui l'entourent, tous ceux de sa famille, eh bien, sont bénéficiaires de cette grâce. Et quand ils le souhaitent et quand ils le veulent, bien sûr. Et ici, eh bien, Lot a fait partie de ces gens qui, étant au bénéfice de la grâce qui était accordée à Abraham, eh bien, va se retrouver riche en troupeaux, en cheptel. Et bah, plus il avait de cheptel, eh bien, plus il fallait employer de personnel, des bergers. Et comme Abraham était de même, il va y avoir une tension concernant eh bien, le besoin pour leur bétail. Donc, il est écrit, il y eut querelle entre les bergers. Et voilà qu'au verset 10, il est indiqué Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. C'était comme soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'était le nœud du problème. C'était entièrement arrosé. Et on peut imaginer Lot faire un calcul rapide en se disant, voilà, mon cheptel va pouvoir augmenter. Et de s'entendre dire de la part de son oncle, va choisir l'endroit où tu veux aller. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et ce garçon, on voit qu'il y avait ce côté où il était au bénéfice de la grâce, mais en même temps, on dirait aujourd'hui, il n'était pas converti. Parce que ce garçon, il va regarder, il est écrit, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'Égypte nous parle du monde. Et on saura plus tard que l'Égypte, c'était le pays où Israël a été 430 ans esclave. Donc ça nous parle du monde. Et ici, on voit ce Lot en train de faire des calculs. Et puis, comme un jardin de l'Éternel, et au verset 11, il est écrit « Lot choisit pour lui ». Et ce qui doit attirer notre attention, c'est que c'est Lot qui a choisi pour lui. On n'y voit pas la main de Dieu. On n'y voit pas Dieu faire le choix pour Lot en disant « Lot, je te conduis à aller à Sodome et Gomorre ». C'est lui-même qui va faire son propre choix. Au-delà du fait que la priorité devait revenir à son oncle, nulle part il recherche à savoir ce que Dieu veut pour lui, et la preuve, Lot choisit. À l'inverse, quelle différence pour un homme qui recherche la volonté de Dieu dans sa vie. Au chapitre 13, verset 14, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. » Et dans le « lève les yeux », il y a tout un symbole. Je lève les yeux, symboliquement, Dieu est au ciel. On le dit, on sait qu'il est au ciel, et symboliquement, on lève les yeux vers le ciel. D'ailleurs, des fois, lorsqu'on on chante, parfois, on voit les gens qui lèvent les mains au ciel, en direction du ciel. Il est écrit, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour... » toujours. Une erreur, les erreurs d'une vie. On commet tous des erreurs. Et la preuve en est, c'est que notre frère, tout à l'heure, nous parlait des prisonniers. Je ouvre une parenthèse. Moi qui commence aussi une formation en tant qu'aumônier en prison, je me suis surpris, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a bien des années, on m'aurait dit « Est-ce que tu voudrais faire aumônier en prison ?» Je ne voudrais certainement pas. Aumônier dans les hôpitaux, oui. Aumônier dans l'armée, oui. Mais dans les prisons, non, pas du tout. Comme quoi les voies de Dieu, les pensées de Dieu et nos pensées sont différentes. Et je me suis surpris à trouver que les prisonniers qui allaient lors des réunions, ils étaient attachants. L'autre jour, je parlais avec un monsieur qui a pris 25 ans. Je dois vous dire qu'il est attachant. Alors, je ne suis pas né de la dernière pluie, je suis dans l'observation, on ne fera pas avaler une couleuvre, ça c'est sûr. Je suis sur mes gardes, voilà. Mais malgré tout, ils sont attachants. Quand vous prêchez que vous leur demandez de fermer les yeux, ils savent que les yeux sont fermés et que vous les voyez lever leurs mains, leur donnant de prendre conscience que s'ils lèvent la main, c'est un symbole devant Dieu. Et vous voyez que ces hommes qui ont pris des temps de prison sont là en train de lever leurs mains. Il y a quelque chose de très attachant derrière. Nous faisons tous des erreurs dans une vie. Il y en a qui ont des conséquences, il y a des erreurs qui ont des conséquences et d'autres pas forcément, mais il y en a qui ont des conséquences terribles, et d'autres, ça n'aura pas vraiment des répercussions, mais des erreurs, nous arrivons à en faire, c'est une certitude. Et puis, il y a ceux qui feront des erreurs qui vont s'enliser de plus en plus, au point que ça deviendra comme une habitude. Certains prisonniers sortent de prison, ils sont contents de sortir. Hein. Puis, quelques temps plus tard, vous les voyez à nouveau en prison. Ils disent, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi ? Ils ressortent, ils rentrent. Erreur sur erreur, ayant l'impression qu'ils ne font qu'augmenter en proportion et en conséquence. La réalité pour Lot, c'est que sa vie, son choix de vivre à Sodome a été l'erreur de sa vie. Il a, écoutez bien, tout perdu. Tout perdu. Son témoignage, déjà, premièrement, la paix, on l'a vu tout à l'heure. Il se tourmentait dans 2 Pierre 2,8. Il se tourmentait après avoir été là-bas. Sur le coup, c'était tout beau, c'était tout neuf. Comme un jardin de l'Éternel, voyant qu'il allait pourvoir en eau, au bétail, pour son bétail. La nourriture, l'eau veut dire aussi nourriture, bien évidemment. Il allait multiplier, tripler, quadrupler, eh bien, son cheptel. Il allait gagner de l'argent, honnêtement, bien sûr. Mais, n'ayant pas demandé à Dieu, faisant son propre choix, pourquoi demander à Dieu ? C'est tellement évident. Sauf que l'évidence, parfois, est bien trompeuse. Et c'est important, frères et sœurs, que nous demandions toujours à Dieu ce qui est bon. Et d'être prêt, non seulement de lui demander, mais d'être prêt à accepter que Dieu nous dise non. Quand Dieu nous dit non, ce n'est pas pour faire son chef. Dieu n'a rien à prouver à personne. Dieu, il est. Il est le « je suis ». Mais c'est là où on voit si je veux suivre vraiment Dieu ou pas. En disant, Seigneur, bien écoute, j'accepte ta volonté, je ne comprends pas. J'aurais préféré que tu dises oui, mais tu dis non. Mais je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ici, donc, dans 2 Pierre 2,8, nous nous apercevons qu'il a perdu la paix. Et la paix, c'est tellement important. Vous savez, il y a des gens qui donneraient n'importe quoi pour avoir la paix. La paix dans leur tête, la paix dans le cœur, vivre en paix. Et puis dans le livre de la Genèse, chapitre 19, verset 14, il est écrit que son témoignage même était écorné, puisque lorsqu'il va être averti par les anges de quitter Sodome et Gomorre, eh bien on se rend compte qu'au chapitre, au verset 14, l'ordre sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles, « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » C'est un bon témoignage, voilà, il rend témoignage. C'est un homme qui a eu une réflexion, il sait qu'il s'est trompé. Il accepte de s'être trompé. Mais en même temps, il a à cœur pour les autres, ceux qu'il connaît. Et regardez ce qu'il a laissé. C'est écrit, « Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. » Le beau papa. Il est rigolo quand même, beau papa. Franchement, il vient de là-bas. Il vient de là-bas et il choisit Sodome et Gomorre parce qu'il veut faire des euros, des shekels plutôt. Et puis maintenant, il fait son beau. Allez, bon, on s'en va. Beau papa, c'est l'engagé avec Dieu du dimanche matin. Mais dans la semaine, dans l'usine, c'est plus le beau papa que l'on connaît le dimanche matin. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas sincère, mais il avait laissé un tel témoignage à travers son choix, à travers son erreur, que ça a marqué sa vie. Et du coup, il parut plaisanter aux yeux de ses gendres. Sa confiance en Dieu, il va perdre. Sa confiance en Dieu va être écornée. Chapitre 19, verset 17, « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie et regarde par derrière toi, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. » Elle est où ta foi, l'autre ? Vous savez, quand on fait des erreurs, on fait des mauvais choix, quand on est dans un mouvement d'erreur, en fait, même si on a eu des bases, des bonnes bases avec Abraham, on est rentré dans un système, dans un mode de fonctionnement, on ne sait plus quoi. Vous vous rendez compte que les anges viennent le chercher, ils prennent par la main pour dire « Bon, maintenant, tu vas là-bas, tout droit. » Ah, ça fait loin. Tu dis que tu vas détruire la ville, Sodome et Gomorre, d'accord. Mais je ne vais jamais y arriver, tu ne vois pas la distance. Je n'arriverai jamais à atteindre cette distance avant que tu ne détruises la ville. Alors, là-bas, il y a... C'est plus court par là, je vais passer par là. Bon, ben, va par là. Et de mémoire, ce soir, ça veut dire petit. Petit. Mais Dieu ne veut pas une petite bénédiction pour nous. Vous imaginez Dieu vous dire, tiens, tu vas là-bas. Et puis, il se tient au coin de la rue, et puis,
paf, ah, t'es tombé.
C'est rigolo, hein. Mais Dieu nous trahirait, Dieu ne serait pas honnête. Sauf que ce n'est pas Dieu, ça. Nous faire croire le Dieu de l'illusion. Moi, je ne connais pas le Dieu de l'illusion. L'illusion, c'est du mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc, Dieu ne nous conduit pas dans l'illusion. Mais lorsque Dieu nous dit « va là-bas », Dieu a eu la compassion de venir récupérer Lot et avec sa famille. Si Dieu a dit « tu vas là-bas », c'est que Dieu aurait laissé le temps à Lot et toute sa famille d'aller atteindre l'endroit où il l'avait indiqué. Et qu'est-ce qu'il a perdu d'autre encore, Lot, à cause de son mauvais choix, à cause de son erreur ? Sa femme. Allez devant, ne vous retournez pas, de peur de vous transformer en statue de pierre, de sel. Et Madame Lot, oh, paf ! Peut-être que quelqu'un s'est transformé en statue de sel ici parmi nous, regrettant d'avoir laissé certaines choses dans le monde. Et vous vous sentez comme figé. Laissez l'eau de la parole couler sur vous. L'eau dissout le sel. Laissez l'eau de la parole couler sur vous en passant par la repentance en disant « Seigneur, je te demande pardon, oui. Tu m'as demandé de ne pas regarder en arrière, alors je comprends, oui, ça m'a fait du mal. Je me suis figé à cause de mon erreur. Alors je vais aller de l'avant. » Et puis, une dernière chose que Lot a perdue, c'est la pureté de ses filles. C'était un drame. L'innocence de ses deux filles. Vous lirez à la maison, chapitre 19, verset 31-38, l'inceste. Ses filles ont couché avec Lot. Parce que les filles se disent, oh là là, ben la ville est détruite. On ne va pas pouvoir avoir d'enfants. On va perdre nos origines, quoi, en quelque sorte. Écoute, on va faire boire papa. Ah, elles ont fait boire papa Lot. Papa Lot, il s'est enivré. Et puis, vous connaissez, bon, vous savez ce que c'est qu'un inceste. Et puis, la deuxième fille, elle a fait pareil. L'innocence de ses enfants. C'est un drame, les erreurs dans la vie de Lot. C'est la raison pour laquelle Dieu nous invite à l'accepter dans notre cœur comme étant pas simplement le petit Jésus du dimanche matin, de surtout Noël. J'étais de garde et un pompier me dit « Et pour vous, là, le Pâques, c'est important pour vous ?» Oui, oui, c'est important. Bon, il y en avait plusieurs, j'ai pas rebondi, mais j'aurais pu lui dire « Mais Pâques, pour nous, c'est tous les jours !» Bien sûr que c'est important. Mais ce n'est pas simplement recevoir Jésus pour Noël, pour Pâques, ou pour la Pentecôte, pour le Saint-Esprit, mais c'est se dire « Seigneur, je veux que tu sois le maître de ma vie. » Le maître de ma vie. Dieu ne vous trompera jamais. Pas parce que Dieu n'en a pas l'intention, c'est parce que ce n'est pas dans la possibilité de Dieu. Ce n'est pas dans son tempérament, son caractère, dans sa nature de tromper. Ça ne viendrait pas à l'esprit de Dieu. Une question, pourquoi Lot et ses filles ont-elles survécu ? Eh bien, des questions peuvent surgir à notre esprit, bien sûr. Pourquoi cet homme a-t-il réussi, malgré tout, à s'en sortir, en ayant perdu bien des choses derrière lui ? Ou peut-être même on peut se poser la question, pourquoi moi je m'en suis sorti ? Pourquoi vous, vous en êtes sorti ? Nous sommes les seuls à connaître notre vie, n'est-ce pas ? Même celui qui partage notre vie, connaît-elle ou connaît-il ? Homme, femme, femme, homme, on est bien d'accord, hein ? Pour dire simplement, est-ce que mon conjoint connaît-il vraiment ma vie ? Est-ce qu'il sait tout de ma vie ? Chaque détail de ma vie ? Bien sûr que non. Pas parce que je veux cacher les choses. Mais ma femme qui est là, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est... Aïe, 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 elle est partie chez sa sœur. Salon rendu var, vas-y, tranquille. Elle n'est pas là pour me dire « Oui, je t'ai vu, t'as mis tes doigts comme ça, t'as dit telle chose. » Elle n'est pas là, comprenez. C'est pour ça que je dis « Notre conjoint ne sait pas tout de notre vie. » C'est une évidence. Un homme, comment se fait-il que Lot et ses filles ont réussi à s'en sortir, malgré tout ce qu'elles ont pu vivre? Parce qu'un homme a intercédé pour Lot et pour sa famille. Et c'est à ça, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à intercéder. Et à l'issue du culte, nous avons le temps de jeûner et prière. Ce n'est pas pour dire oh, « on va faire les spirituels » ou alors « bon, c'est écrit, on va le faire, on va jeûner et prier ». Non, il faut intercéder, prier. Il y a bien des années, lorsque ma femme et moi nous sommes passés par un moment qui était très douloureux et très difficile à vivre, lorsque nous avons appris que certaines églises priaient pour nous alors qu'on ne les connaissait même pas, les chrétiens, je vous assure, en ce qui me concerne, mais ça m'a fait tellement de bien de voir que des gens étaient capables de prier pour nous alors qu'on ne les connaissait même pas. Et ils ne nous connaissaient pas non plus, mais ils intercédaient. Et si je suis là, c'est peut-être aussi à cause de leur prière ou grâce à leur prière. Genèse 18, verset 17, regardez comment Abraham va s'y prendre. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorre. Or donc Dieu va révéler ces choses à Abraham. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre sont accrus et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr ainsi et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge en toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5 détruiras-tu la ville, toute la ville ?» Éternel dit, « Je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. » Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que si on ne s'irrite point, je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. » Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. » Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 10 justes. Et Éternel s'en alla alors, ce qu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je en Abraham ce que je vais faire? Ça nous parle de l'intimité entre Dieu et Abraham. Dans Ézéchiel 22, verset 30, il est écrit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ésaïe 6, verset 8, il est écrit « J'entends la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » bien plus que des hommes intercesseurs qui sont eux-mêmes au bénéfice d'autres, qui ont prié pour eux, qui n'est en réalité que l'écho de Dieu qui vous aime et qui cherche à toucher votre cœur. Au verset 22, Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Ça nous parle de l'habitude. Abraham avait l'habitude. Avez-vous l'habitude de vous placer dans la présence de Dieu? Ou est-ce que vous attendez dimanche matin pour vous lire la Bible? Et en plus, que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous, votre humble serviteur. Un jour, il y avait un prédicateur, il disait comme ça en quelques mots, il disait, alors je crois qu'il parlait quand il était ancien, il disait, et qu'il ne lisait la Bible que pour préparer un message. Il ne devait pas beaucoup lire. Au verset 25, il est écrit « Loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi !» Abraham était un homme qui a appris à connaître Dieu. Il savait pourquoi il pouvait dire « Loin de toi !» Parce qu'il connaissait le cœur de Dieu. Et au verset 29, Abraham continua de lui parler. Conclusion de ces versets, la clé, c'est l'amour. Dieu veut nous tenir par la main. Genèse 19, verset 16, il est écrit, « Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel ne voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et laissèrent hors de la ville. » On peut se demander quelle était la raison des anges qui étaient obligés de saisir la main de Lot. « Mais dépêche-toi ! Yalla ! On y va! Ça urge! Ça presse! C'est urgent! Comment ça se fait que Lot, il a tardé? Ben peut-être parce que simplement, non pas parce qu'il se sentait en disant « Oh, j'hésite, j'aime bien Sodome et Gomorrhe ». Non, pas du tout, puisqu'on l'a vu dans 2 Pierre. Il se torturait l'esprit d'avoir fait ce mauvais choix. Bien sûr que ce n'était pas parce qu'il aimait la ville. Justement, il avait l'occasion de pouvoir sortir de cette ville. Mais pourquoi Lot est-il obligé de se faire attraper la main pour sortir? Il n'était certainement pas nostalgique, ça c'est une certitude. Mais il était stupéfait de la réalisation de tout ce qui allait se passer. De comprendre que cette ville, imaginez si demain Dieu vous disait « la ville de Martigues va être détruite ». Seigneur, c'est pas possible. Enfin, la ville va être détruite. Moins 30 mètres sous mer. Dépêche-toi. Ben non, c'est... Dépêche-toi, ça va être détruit. On serait stupéfait. Vous savez que le monde va être détruit, frères et sœurs. Non pas comme les témoins de Jéhovah n'osent pas le penser. Ils disent « Non, mais non, ça doit pas être détruit. » C'est écrit noir sur blanc. Hein. La ville va être, le monde va être détruit. Mais peut-être qu'il y a aussi une autre raison. Pourquoi Lot a été obligé de se faire prendre la main pour pouvoir partir? Parce qu'il ne se sentait pas indigne. Et peut-être que c'est votre cas ce matin. Vous dites, mais j'ai tellement fait d'erreurs. Bien sûr, je n'ai pas fait ce que Lot a fait, mais c'est vrai que j'ai dit à Dieu, oui, j'ai envie, puis j'ai plus envie, et puis je fais des choix sans demander à Dieu, et puis après j'ai envie, et puis je me rends compte que j'ai fait des erreurs, et que même j'ai entraîné d'autres personnes. Mais est-ce que Dieu pourrait? Oui, Dieu veut. Parce qu'au-delà du père Abraham qui a intercédé pour son neveu Lot, il y avait le cœur de Dieu. Continuons à prier pour ceux et celles qui sont avec ce vilain vocabulaire rétrograde. Ceux et celles qui ont entendu un jour l'Évangile. Ceux et celles qui sont à la recherche de Dieu et qui ne trouvent pas Dieu parce que justement ils sont dans les choix. Oui, j'ai envie, non, j'ai pas envie. Savez-vous que Einstein n'a pas su parler avant l'âge de 4 ans? ni lire avant l'âge de 7 ans. Peut-être, ce petit, il a vraiment du retard. Il n'est pas fut-fut. Il n'est pas très intelligent. On s'est loupé. Et que ça incline à ses parents, ses professeurs, à penser qu'il avait une déficience mentale. Einstein. Savez-vous que Walt Disney a été congédié par un éditeur de journaux car il manquait d'imagination? Il n'avait pas de bonnes idées. C'est étonnant, non? Savez-vous qu'en 1894, un jeune élève reçut son bulletin scolaire de fin d'année avec cette note manuscrite. Élève incapable de s'exprimer. Aucun progrès possible. Son nom ? Winston Churchill. Quand même. Cependant, toutes ces personnes ont eu la capacité de voir plus loin que l'échec. Quelqu'un a dit un jour, la victoire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Oui, vous avez commis des erreurs. J'en fais partie. On n'ose pas en parler, parce que c'est bien souvent humiliant. Et puis parce que ça ne serait pas censé intéresser nos voisins. Et puis, ça fait partie de notre pudeur. On aime bien, par contre, parler de nos succès. Par contre, de nos erreurs. Alors, ne restez pas dans votre erreur. Il suffit simplement de la reconnaître en disant, voilà, bah oui, je me suis loupé. Ne pas en être fier, bien sûr. De ne pas en tirer un orgueil quelconque. Et de dire, voilà, en fait, comprenez que Dieu n'en a pas fini avec vous. Il n'en a pas fini avec vous. Et qu'il y a des gens qui prient pour vous. Priez pour les autres. Mais sachez qu'il y a quelqu'un supérieur à chacun d'entre nous qui prie, qui intercède. Son nom est Jésus. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes qui intercède pour chacun d'entre nous. Vous savez, si on prenait du temps pour y réfléchir, si ce soir en vous couchant aussi, après le jeûne et prière, entre les deux réunions, parce que cet après-midi, 16h, réunion d'évangélisation, vous le savez tous, entre les deux réunions, peut-être que vous allez fermer un œil pour opposer l'œil droit, puis après l'œil gauche pour opposer l'œil gauche, voir les deux en même temps, faire du clignotant, ou du warning, à un moment donné, vous avez coupé le compteur jusqu'à l'heure d'aller à la réunion, peut-être que vous allez réfléchir en vous disant combien d'erreurs j'ai pu commettre qui semblent irréparables. Mais Dieu change les temps et les circonstances à la condition qu'on le laisse faire. Alors je termine en disant cette conclusion. Ce n'est pas le paysage qui est trop petit. C'est la fenêtre par laquelle on le regarde qui est trop petit. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous voyez cette nature. Vous savez, il y a des endroits, pour les photographes, il y a des plans que certains ont estimés, l'Office du tourisme, sans doute, a estimé que cet endroit était bon à être photographié. Donc, ils font un plan. Et puis, derrière ce plan, il y a un petit carré où on prend la photo pour bien focaliser l'endroit précis qu'on veut fondre. Mais ça réduit le champ de vision. Mettez le plan de côté et puis mettez-vous là. Vous voyez l'espace. Ne réduisez pas Dieu à un petit plan. Dieu n'est pas dans les petites choses, il ne veut pas bénir en petites mesures. Dieu est dans les grands, dans les petits détails comme dans les grandes choses. Mais ne limitons pas Dieu dans des petites bénédictions. Dieu, c'est le Dieu du grand. Alors, quelles que soient vos erreurs, venez simplement à Jésus. Il est à Jésus, Jésus, je te demande pardon pour mes erreurs. Et apprenez de vos erreurs. Il faut apprendre de ces erreurs. Dire, bien Seigneur, ça, je ne veux plus le refaire. Je ne veux plus le commettre. Est-ce que quelqu'un voudrait terminer par la